tout de suite l'émission Dans le rétro. Dans le rétro, c'est l'émission qui passe au crible l'histoire de notre territoire. Présentée par Patrick Grosjean, en partenariat avec l'association Les Amis du Blanc et ses environs. Sur Dynamo, l'histoire c'est de l'émission Dans le rétro.
Alors tu danses ? Il s'agit en effet aujourd'hui des bals clandestins en Brenne pendant la Seconde Guerre mondiale. Tel est effectivement le titre de la chronique d'aujourd'hui, sur un sujet qui peut paraître anodin, mais qui mérite quelques explications, explications que Chantal se propose de nous donner. Bonjour Chantal, je te laisse la parole.
Merci, bonjour Patrick. Alors, cette histoire de bals clandestins commence par ceci. Les historiens ont à peu près tout ausculté et écrit sur les événements du Second Conflit mondial, sauf l'organisation des bals clandestins, quelque peu oubliée et ressurgie du passé en 2014 grâce à la ténacité et aux investigations de quelques professeurs d'université et chercheurs. Pour des raisons évidentes de discrétion et de bruit, ces rassemblements ne pouvaient se dérouler qu'en milieu rural, éloigné de toute habitation et route passagère. La Brenne était donc en adéquation idéale pour la tenue de ces bals. Donc en route sur les chemins pour découvrir la préparation des guinches. Comme nous sommes à la radio et que nous parlons d'un sujet plutôt musical, je vais illustrer mon propos avec quelques morceaux et chansons de cette époque.
Ah, ça s'impose.
Eh oui. Alors, avant d'attaquer le sujet vraiment de la Seconde Guerre mondiale et de ces bals clandestins pendant cette période compliquée, voyons un petit retour en arrière pour voir ce qui se passait pendant l'entre-deux-guerres. Donc, depuis les années 1920-1930, on dansait en toute occasion dans les milieux populaires, souvent au son d'un seul instrument de musique. Une fin de moisson, un mariage, une fête traditionnelle de village, le 14 juillet. Plus huppée, la bourgeoisie indrienne se retrouvait à Châteauroux dans les salons dédiés des hôtels de France ou du Faisan. Un dîner précédait souvent la soirée dansante, organisée par des sociétés telles que l'Aéroclub de l'Indre, la Fête de Saint-Yves ou l'Épée, c'était une association d'escrime. Les quadrilles, mazurka et polka s'affichaient sur les programmes. Bientôt, ces danses deviendront désuètes. Nous allons écouter, pour illustrer ce propos, quelques notes du petit bal musette de Marcels et son orchestre, donc morceau enregistré en 1930, qui sera suivi d'un extrait d'une polka de Teddy Petersen, interprété à la trompette.
Aux accents traînants de l'accordéon, on se parle, on se bouscule et sans façon. En clignotant des mirettes, Gilot dit bien une nanette. Les hommes au front là sous la casquette. Alors coule tendrement, parle d'amour. Parmi les cris, la fumée, les femmes trop parfumées, sans laisser passer un tour, on danse jusqu'au jour. Thank you. Alors foule tendrement parle d'amour. Parmi les cris, la fumée, les femmes trop parfumées, sans laisser passer un jour au danger pour jour.
Venant des États-Unis et d'Amérique du Sud, les foxtrot, charleston, rumba, begin, paso doble et surtout tango argentin font leur apparition. Une révolution qui va vite faire oublier les chorégraphies traditionnelles, mais aussi les bourrées et rondes berrichonnes. La grande innovation de ces nouvelles danses, qui séduiront tout particulièrement les jeunes, était la juxtaposition des corps et leurs pas subjectifs, encore parfois considérés comme osés. Le tango en étant l'archétype. En voici un extrait à l'accordéon diatonique par Étienne Boulanger, la comparsita.
Bien, alors, nouveau morceau, nouvelle façon de danser, rien de plus normal. Qu'est-ce qui a grippé la machine, alors ?
Eh bien, l'Église catholique, qui ne l'entendit pas ainsi. Dès 1913, alors effectivement, l'Église, on entend les cloches de l'Église du Blanc. Dès 1913, le comité diocésain parisien évoque des danses inconvenantes. Quelques mois plus tard, l'archevêque de la capitale, le cardinal Hamet, écrit, je cite, « Nous condamnons la danse d'inspiration étrangère, connue sous le nom de tango, qui est, de sa nature, lascive et offensante pour la morale. Les personnes chrétiennes ne peuvent en conscience y prendre part. Les confesseurs devront agir en conséquence dans l'administration du sacrement de pénitence. »
Eh ben dis donc.
Eh oui, donc là je referme les guillemets. Donc ce propos, qui était relayé en chair par les prêtres des villes et des campagnes, résume l'opposition affirmée de l'Église qui perdurera jusque dans les années 1950. L'arrivée de la Seconde Guerre mondiale va faciliter cette interdiction de danser. C'est au mois de mai 1940, après l'offensive allemande d'envergure dans les Ardennes, que l'éphémère ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, semble avoir signé un décret interdisant l'ouverture de tous les dancings et par voie de conséquence de tous les bals publics et privés. En cette période troublée et désorganisée, le texte initial, du coup, n'a jamais été officiellement publié au journal officiel. Un petit peu oublié. Toujours est-il que les Parisiens en ont été informés par un entrefilet publié dans le journal de Le Figaro du 20 mai 1940. Quelques jours plus tard, les préfets étaient chargés de faire appliquer cette mesure dans leurs territoires respectifs. Faute d'archives, nous ignorons de quelle façon les préfets de l'Indre, Raoul Grimal, jusqu'au 16 juin 1940, et Léon Gonsalves, jusqu'au 17 septembre 1940, ont géré cette interdiction qui était facile d'expliquer sous prétexte qu'en période de conflit, il était malvenu de se réjouir en écoutant de la musique et en esquissant des pas de danse. L'autre raison reposait sur le fait que le régime de Vichy craignait que ces rassemblements d'adolescents et de jeunes adultes n'attisent leur velléité de résistance naissante.
Et le commandement ennemi dans tout ça, est-il intervenu pour interdire ces bals ?
Alors, contrairement à des idées reçues, les autorités allemandes sont restées relativement en retrait des décisions strictement françaises, se réservant la possibilité d'intervenir et d'interdire des rassemblements considérés comme nuisibles. Selon le statut de zone occupée ou libre des régions, le Feldkommandant départemental en place pouvait demeurer indifférent à la tenue des bals ou au contraire être plus intransigeant. Curieusement, cette interdiction ne concernait que les Français et non les Allemands, libres de s'amuser en dansant comme ils l'entendaient.
D'accord. Et le contexte général étant posé, qu'en était-il en Brenne ?
Le territoire, avec ses nombreuses fermes isolées et sa jeunesse dégourdie, permettait d'organiser facilement des bals clandestins. Au dire de Robert Boutin, jeune de 15 ans en 1941, 15 à 20 personnes, grosso modo, garçons et filles, se réunissaient 5 à 6 fois par an, le dimanche après-midi, qui était à l'époque le seul jour de congé, voire le samedi soir, dans les granges et bâtiments des domaines suivants. La Chaume, la Benauderie, la Carolerie, la Verdoirie à Saint-Michel-en-Brenne, les Fontaines à Douadic, la Gabrière à Linger ou les Bijotières, la Petite et la Grande, à Azelferon. Bien évidemment, les propriétaires ou les régisseurs connaissaient l'existence de ces assemblées, mais fermaient les yeux tout en sachant qu'ils pourraient être tenus responsables en cas de dénonciation ou découverte par les gendarmes. Lorsqu'un lieu avait été repéré, le bouche à oreille fonctionnait très rapidement pour communiquer les informations nécessaires au regroupement. Des cyclistes, sous un prétexte quelconque, passaient de ferme en maison pour enquérir les bonnes, les femmes de chambre, les garçons de ferme. Ces endroits, un peu éloignés des routes, permettaient à l'accordéoniste, plus rarement accompagné d'un violoniste, de jouer en toute tranquillité. Peu importait s'il y avait des fausses notes, s'amuser primait. Un chapeau passait entre les seuls danseurs pour indemniser le musicien amateur, car, galanterie oblige, les filles étaient invitées. Nous allons écouter maintenant en entier la célèbre chanson qui est une valse musette intitulée « Mon amant de Saint-Jean » par, initialement, la première interprète, donc Lucienne Delisle. Nous sommes en 1942.
Pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, au musée d'or. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
Et les musiciens dans tout cela, qui étaient-ils ?
Alors, parlons de Léon Riboton, menuisier de son état, demeurant à Preuilly-sur-Claise, aurait été l'un d'eux. Il venait facilement à Saint-Michel avec son accordéon pour distraire cette jeunesse, bien en manque de distraction. De même, René Lecomte, fils d'un épicier cafetier dans le même village, aurait joué du piano à bretelles. Ce dernier a même été volé fin août 1944 par les hommes du 950e régiment hindou lors de leur haineux passage en Brenne. Dédé, jeune musicien autodidacte, a acheté son instrument diatonique grâce à des animations tolérées pour les mariages et aux quêtes laissées par les valseurs qui se réunissaient du côté de Pouligny-Saint-Pierre, aux Tessonnières, aux Champs-Cornus ou aux Veillons. Les arrivées des danseurs se faisaient discrètes, à pied ou à vélo, qu'il fallait dissimuler pour mieux éviter tout repérage. Les danseuses venaient seules ou accompagnées d'une amie, dans le style « promenade sur les chemins ». L'un d'entre eux ne passait pas inaperçu. Il s'agissait d'Hassan Bissi, né à Pébo-Pen, donc actuellement au Tchad, mais c'était une ancienne colonie d'Afrique équatoriale française, qui travaillait au service de Jean Lebaudy comme valet de chambre. Âgé d'une bonne vingtaine d'années, sa couleur de peau surprenait et attirait beaucoup le sexe féminin. Les réunions pour gambiller le samedi soir entre 20h et minuit étaient plus compliquées, car il fallait d'abord déjouer le couvre-feu et ensuite rentrer sans aucune lumière, ce qui n'était pas de tout repos à travers des chemins. Ces difficultés étaient vite oubliées lorsque les couples tournoyaient enfin au son d'une valse, quitte même à en tomber dans la paille, en tout bien tout honneur, bien sûr. Ce moment de répit réconfortait les âmes et les cœurs. Bien entendu, on flirtait gentiment et parfois on rencontrait même sa future épouse. Certaines jeunes filles devenaient même des marraines de guerre en assurant une correspondance suivie des envois de colis, de photographies avec leurs filleuls partis au front, au maquis ou ailleurs, au hasard des combats.
Bien, et la maréchaussée a-t-elle dressé des procès-verbaux et verbalisé ces bals clandestins ?
Alors, dans l'Indre, relativement peu ou pas du tout. Début août 1943, le café d'Hubert et de Jeannine Giraud à La Pirouille doit rester fermé un mois pour avoir organisé chaque dimanche des guinches. Le couple n'a pas tenu compte des précédents avertissements formulés par les gendarmes. Au hameau de Bénavent, sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre, le 22 octobre 1944, deux militaires en tournée prennent sur le vif les danseurs dans le café tenu par M. Legros, qu'ils sermonnent sans relever d'infraction. Un témoignage oral nous a fait part de l'arrivée de gendarmes à Saint-Michel dans l'une des fermes précitées. Les garçons et les filles se sont vite égayés dans les bois et prés environnants. Le musicien a écopé d'un procès-verbal et d'une amende, réglé avec la collecte effectuée auprès des danseurs. Enfin, au Blanc, l'hôtel de la Roue d'Or, le nouvel hôtel et le café Féchaud accueillaient des bals tolérés, et pour cause, au moins après le débarquement, les gendarmes eux-mêmes les fréquentaient comme danseurs. Alors, il était dit, dans les documents qui ont été retrouvés, ceci. Depuis environ 4 mois, ce bal avait lieu presque tous les dimanches, mais jusqu'alors, les organisateurs n'avaient pu être pris sur le fait. Plusieurs avertissements leur avaient été donnés, notamment le 9 mai 43, date à laquelle ils avaient été verbalisés pour fermeture tardive, mais ils n'ont tenu aucun compte de ces avertissements. Ce bal est fréquenté par des jeunes gens, jeunes filles et enfants de tous âges des communes environnantes, dont le nombre chaque dimanche peut s'élever de 3 à 400. Donc, les époux Giraud ont déclaré ne pas faire payer d'entrée, bien qu'il fût établi qu'il faisait payer 10 francs par personne. Ça, c'est un premier document que je viens de citer in extenso, et un second, retrouvé auprès des archives de la gendarmerie à Châtellerault, dit ceci. Un groupe de danseurs se sont mêlés, donc c'est pas français, mais bon, ça a été écrit ainsi, à notre conversation, et nous ont fait entendre qu'à Le Blanc, on dansait fréquemment à l'hôtel de la Roue d'Or, au nouvel hôtel ou au café Féchaud. Ces danseurs ont ajouté que la police du Blanc, bien que sachant les bals interdits, les tolère et même certains agents les fréquentent.
Ah bah oui, ça confirme ce que tu disais.
Voilà, ça, tout à fait. Contrairement à d'autres départements qui ont été beaucoup plus sévères, en particulier en Bretagne, dans l'Indre, les autorités semblent avoir accordé peu d'importance à ces réjouissances éphémères qu'elles laissaient se dérouler en fait très tranquillement. Certains gendarmes devaient probablement fredonner le fameux « Ah, le petit vin blanc » interprété par Lina Margy et toujours aussi connu. Écoutons-le.
Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille les barques dociles aux bras des amants, de fraîches guinguettes, des filles bien faites, il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter, pour fauter. Dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil connaît son affaire. Cueillons en chemin ce minois mutin, cette robe claire. Venez, belle fille, soyez bien gentille, là sous la charmigue, l'amour nous attend. Les tables sont prêtes, l'aubergiste nette, il y a des chansonnettes, et il y a du vin blanc, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter, pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Passage charmant, la taille souvent prend de l'avantage. Ce n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande ses verres à la jeune enfant. Ma fille raconte comment triste honte as-tu fait ton compte. Réponds, je t'attends. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnerres quand les filles sur son verre du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les forêts, du côté de nos gens. Car c'est toujours pareil, tant qu'il y aura du soleil, on verra les amants au printemps s'en aller pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens.
Bon, mais tout a une fin, y compris cette interdiction qui a tout de même perduré 5 ans. Qu'en est-il ?
Le 30 avril 1945, le ministre de l'Intérieur adresse enfin une circulaire à tous les préfets dans laquelle il rétablit, je cite, « la liberté de la danse ». Il autorise, je cite à nouveau, « la réouverture des cabarets et boîtes de nuit jusqu'à 23 heures, quand même ». Et enfin, il réglemente dans des conditions strictes les galas de bienfaisance. Initialement au profit des prisonniers, déportés et victimes civiles, il semble qu'une dérive se soit installée pour en fait organiser des classiques bals publics aux grandes dames des autorités. Mi-juin, les Indriens peuvent enfin danser à leur guise, après l'accord et le contrôle de différentes commissions mises en place par Jean-Georges Laporte, qui était le préfet de l'époque. N'en déplaise au docteur Roger Gall à Châteauroux, qui le 3 août 45 se plaint aux mêmes hauts fonctionnaires, trouvant, je cite encore, « les bals d'hiver beaucoup trop nombreux, à l'origine du nombre croissant de maladies vénériennes provoquées par des jeunes filles de rencontre. » Bigre.
Et qu'en était-il des autres distractions, si tant est qu'il y en ait eu ?
Alors oui, il y en a eu un petit peu. Conscient de l'ennui de cette jeunesse, mais surtout pour respecter les souhaits du maréchal, le régime de Vichy a rapidement mis en place des structures très encadrées et surveillées. Dans l'Indre, au mois de juillet 1941, nous en dénombrons 4. Les Compagnons de France, prônant les valeurs de la Révolution nationale, l'idéologie vichiste, les ateliers de jeunesse dans le même état d'esprit, la Fédération catholique ayant approuvé les institutions du gouvernement du maréchal et œuvrant dans les milieux conservateurs et bourgeois, les éclaireurs et éclaireuses de France à leur début, mais aussi favorables aux préceptes pétainistes. Plutôt urbains, ces mouvements ont été peu représentés en Brenne. Les jeunes se contentaient du cinéma à Mézières-en-Brenne, hein, puisqu'à l'époque il y avait un cinéma, des balades à vélo, des discussions sans fin autour d'un banc sur la place Saint-Cyran à Saint-Michel, du foot, bien sûr, même sans véritable ballon, et le théâtre. Dans les fermes, nombreuses, les maisonnées dînaient à 18h. Et à partir de 18h30, ben finalement, les adolescents et les jeunes adultes disposaient de leur temps libre et n'avaient plus grand-chose à faire. Donc certains apprenaient des scénettes, longuement répétées, avant d'être joués dans les cafés ou plus fréquemment dans les cuisines de domaines agricoles. En toute simplicité, des chaises étaient rassemblées et chacun, de la femme de chambre au garçon de ferme, en passant par les propriétaires des lieux, assistait à la représentation du moment. Robert Boutin se souvient d'avoir interprété un greffier de tribunal. Enfin, les férus de cyclisme, qui à l'époque se pratiquaient principalement sur piste, se rendaient au vélodrome du Blanc pour encourager leurs favoris comme Gastron Plot ou Guy Desplats. Sous la direction de Marcel Lambert, le célèbre vélo-club blancois a ainsi organisé en 1942 des courses qui réunirent quand même quelques 3000 spectateurs à l'occasion de championnats régionaux.
Ah oui, c'était très suivi. En ce temps de conflit, toute cette jeunesse avait-elle le sentiment de résister à l'ennemi en participant à ces bals clandestins ?
Non.
Dès l'origine, cette interdiction dictée par les seules autorités françaises, sans ingérence des Allemandes, est étroitement liée à la farouche opposition du clergé catholique, heurté par l'indécence de ces nouvelles chorégraphies qui rapprochaient dangereusement les corps, troublant ainsi la bienséance et le puritanisme de l'époque. Ainsi peut-on résumer la première partie de ton intervention. Grâce à la relative mansuétude des gendarmes et des habitants complices, les jeunes Brénoux ont pu vivre leur adolescence quasi normalement, en dépit de la guerre, et malgré le « on n'avait pas le droit ». Ce ne fut pas le cas dans d'autres régions plus exposées, je crois.
Oui, tout à fait. Merci Patrick pour cette conclusion qui, j'espère, résume ce chapitre particulier sur les bals clandestins. Et avant de nous séparer, je vous propose l'écoute de Sourire d'automne, écrit par Albert de Lagrange, alias Ray Lambert, alors non pas nom de résistant, mais nom d'artiste, qui est un compositeur lochois prolifique de plus de 200 titres. Ce morceau particulier a été écrit en 1945, pendant le siège de Saint-Nazaire, en hommage à ses camarades du maquis d'Épernon, qui est intervenu un petit peu dans l'Indre, mais beaucoup en Indre-et-Loire, ouais. Qui ont combattu dans l'Indre et en Touraine. Merci pour votre écoute.